Vous écoutez Libère-toi, le podcast pour apprendre à déléguer, épisode 13. On dit souvent que pour faire confiance à l'autre, il faut d'abord avoir confiance en soi. Mais comment on fait pour y arriver? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on apprend à faire toutes sortes de choses. La comptabilité, le marketing, les ventes, le service client, etc. Mais on ne prend pas toujours le temps de travailler sur nous-mêmes. Aujourd'hui, je reçois Mélissa Miron, coach certifiée PNL et fondatrice de M'Entreprendre. Elle accompagne les entrepreneurs modernes dans la co-création de stratégies intentionnelles pour que leurs actions s'alignent avec fluidité et clarté à leur vision personnelle de succès. Dans cet épisode, on va discuter de comment développer son savoir-être permet de mieux déléguer par la suite. Entre autres, on va parler de l'importance de bien se connaître, de développer son leadership, mais aussi de comment identifier ses forces et ses faiblesses pour être en mesure de déléguer les bonnes choses. À tout de suite! Imagine-toi avoir une heure de plus par jour. T'en ferais quoi? Je suis Josiane Morinville et j'anime le podcast Libère-toi pour les entrepreneurs qui veulent plus de temps, plus d'argent. T'as tendance à tout faire par toi-même? Et si déléguer était la clé pour mieux travailler? Ben salut Mélissa, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Libère-toi.
Ben salut Josiane, merci à toi de m'avoir invitée, c'est vraiment un plaisir d'être là, j'avais super hâte.
Eh ben moi aussi là, j'avais vraiment hâte. Parce que dans le fond, j'ai décidé de t'inviter parce que je trouve qu'avec ton podcast M'Entreprendre, tu parles de beaucoup de thèmes intéressants comme le mindset, le leadership de soi, puis l'introspection. Puis je trouve que le fait de déléguer, c'est vraiment beaucoup relié à notre savoir-être en tant qu'entrepreneur. Puis c'est pour ça que là, je me suis dit, ah ben je vais profiter de ton expertise pour qu'on puisse discuter ensemble de comment on peut faire justement pour bien se connaître, identifier ses forces, ses faiblesses. Parce que dans le fond, on dit souvent que pour faire confiance à l'autre, il faut d'abord avoir confiance en soi. Fait que j'aimerais ça qu'on démystifie un petit peu tout ça ensemble là, aujourd'hui pour inspirer là, d'autres personnes là, à développer ça.
Ben ça va me faire vraiment plaisir. C'est le grand constat que je fais par rapport au fait de déléguer, mais parce qu'au-delà de ça, c'est du relationnel. Fait que tu sais, toute la communication, savoir, tu sais, tu parlais de nos forces, nos faiblesses, mais aussi pourquoi on délègue ça. Il y a toujours des raisons qu'on n'a peut-être pas identifiées, puis ça vient tout influencer la relation, la façon qu'on choisit la personne, qu'on va traiter le mandat. Fait que, ouais, je pense que c'est vraiment un bon sujet à aborder dans ton podcast, c'est cool.
Ah oui, vraiment. Puis dans le fond, avant qu'on commence, ben j'aimerais ça que tu prennes le temps un petit peu de me parler de toi, puis aussi là, de ton entreprise.
Ben super. Donc, Mélissa Miron, j'ai 40 ans. J'ai été pendant 15 ans dans l'industrie touristique, en agence de voyage principalement. Et j'ai terminé ma carrière touristique pendant 6 ans avec une agence de voyage, avec une équipe d'une quinzaine de personnes. Donc, ça a été vraiment une expérience, je vais dire, intense au niveau du leadership, de la gestion, de la délégation et tout. On en reparlera peut-être tantôt si c'est pertinent. Pour ensuite, dans le fond, ma transition s'est faite par des charges de cours dans les écoles de tourisme. Et c'est là que j'ai découvert vraiment que je tripais dans la formation, l'animation d'ateliers. Mais au-delà de ça, je savais pas, mais ce que je faisais, c'était du coaching. Mais je savais pas que ça existait, puis je savais pas c'était quoi. Mais moi, ce qui me passionnait, c'était de savoir, tu sais, qu'est-ce qui fait que les étudiants veulent telle ou telle spécialisation, dans quel genre de milieu de travail ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent développer, ce serait quoi leur niche et tout ça. Fait que c'est vraiment de fil en aiguille qu'à force de me faire dire « Ah, tu serais bonne coach » ou « Ah, t'es comme un mentor, blablabla », qu'à un moment donné, je me suis comme ouvert à ça, puis que j'ai réalisé que ça pouvait être un métier, qu'on pouvait étudier pour ça. Et là, ça a été la piqûre. Donc, en 2012, j'ai commencé ma formation en coaching. Moi, j'ai étudié en coaching PNL et j'ai commencé à pratiquer dès 2013. Donc, ça fait déjà 7 ans que je pratique en tant que coach, en tant que conférencière, formatrice. Je te dirais que la majorité de ma clientèle, c'est des petites entreprises, donc 25-30 employés et moins. Beaucoup d'entrepreneurs, solopreneurs, travailleurs autonomes, c'est une grande clientèle avec qui je travaille parce que j'ai une parenté d'esprit avec ces gens-là. Puis je pense que dans beaucoup de cas, on fait le choix d'être à son compte. Si on peut dire, tu sais, la première étape, c'est ça, là, avant même de bâtir une entreprise qui va peut-être embaucher des gens, on a vraiment un désir de liberté, tu sais, de faire les choses à notre façon, d'avoir une liberté d'horaire et tout. Mais souvent, la réalité, c'est pas toujours ça quand on se ramasse à notre compte. Donc, je pense que d'accompagner ces gens-là, c'est vraiment ce qui me drive le plus. Puis c'est pour ça que je parle de leadership, de communication, de mindset, parce que tu gères 400 employés ou que tu sois seul, le principe est le même. Tu as à apprendre à te gérer d'abord pour être capable de gérer les projets et les gens autour de toi. Donc, c'est ça qui me drive au quotidien, d'accompagner les gens à mieux se connaître. Moi, je dis souvent, tu sais, de pratiquer l'introspection comme étant une stratégie de croissance. Oui, c'est de la croissance personnelle, mais c'est ça qui va permettre la croissance professionnelle ou la croissance d'affaires. Parce que tout part de toi, tu sais. Ça part de jusqu'où toi, tu peux aller. Donc, c'est un peu ça mon topo. Je sais pas si ça répond à ta question.
Ah, c'est vraiment... Non, moi, j'adore. C'est super inspirant. Puis, non, c'est parfait.
Ah, mais tant mieux.
Puis là, j'aimerais ça, tu sais, dans le fond, parce que là, je voudrais savoir d'abord un petit peu, c'est quoi, toi, ta propre expérience par rapport à l'acte de déléguer, là, tu sais? Parce que là, je sais que tu délègues des choses en ce moment. Peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce que tu délègues, tu sais, par où tu as commencé?
En fait, c'est comme vraiment deux morceaux différents dans ta question. Par où j'ai commencé, puis ce que je délègue maintenant, il y a un monde de différence entre les deux. Ce que le topo que je peux peut-être faire, c'est que pendant les premières années de ma pratique de coaching, ce que je déléguais surtout, c'était ce qu'on appelle des mandats d'expertise. Tu sais, mon site web, des cartes d'affaires. Donc, des trucs où tu vas chercher quelqu'un qui a une compétence que toi, tu n'as pas, qui prend en charge le projet. À peu près, je te dirais en 2015, si ma mémoire est bonne, 2015-16, j'ai commencé à avoir l'idée, tu sais, à me dire, OK, je pense que je pourrais avoir quelqu'un qui m'appuie. Et c'est là qu'on a commencé à beaucoup, beaucoup voir le volet adjointe virtuelle. Puis là, je pense que j'avais vraiment le désir de trouver une personne qui pouvait faire tout ce que j'avais de besoin. Fait que je ciblais, je pense que j'avais pas tant ciblé mes besoins. J'essayais de trouver la personne qui peut faire peut-être un peu de gestion de courriel, un petit peu de modification sur mon site web, des réseaux sociaux, des appels de prospection, m'accompagner parce que souvent j'animais des conférences, j'allais dans des foires où tu sais, j'ai un kiosque, tout ça, dans des associations professionnelles et tout. Donc, quelqu'un qui peut être avec moi. Qui... Puis on dirait que je trouvais pas. Puis là, je me suis dit « OK ». Là, il y a peut-être quelque chose dans... Pour moi, une adjointe, c'était vraiment un bras droit. Puis je voyais ça comme si elle peut faire un peu de tout. Puis là, je me suis rendu compte que c'était là où ça m'amenait de la frustration et ça amenait pas la personne à être dans sa zone d'excellence non plus. Parce que les adjointes avec qui j'ai fait affaire, ben je pense qu'ils avaient vraiment le goût de m'aider, tu sais. Fait qu'ils me disaient peut-être oui quand c'était pas tout à fait leur expertise ou tu sais, ah ben oui, vu que je fais déjà ça, je pourrais te faire ça. Mais bon, je me suis rendu compte que finalement, ça roulait un peu carré, tu sais. Et ce qui m'a amené à être presque un an et demi à tout reprendre en main puis à dire, ouais, là, ça marche pas. Puis vraiment, le fondement de ça pour moi, c'était que la délégation, là, je vais parler vraiment en tant qu'entrepreneur, quand ce n'est pas des employés, que ce soit des gens contractuels, puis tu peux lui donner 30 heures par semaine en contractuel, là. Mais je veux dire vraiment que tu as une relation de mandat, tu as à clarifier tes attentes, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux que ça se passe, tu as une job à faire, puis trop souvent, quand tu es entrepreneur, quand tu es travailleur autonome, bien, on sait que ton enjeu, c'est le temps. Fait que quand tu arrives à déléguer, ça fait déjà peut-être X semaines ou X mois que tu n'as plus de temps. Donc, tu ne prends pas le temps de faire le processus. Puis c'est là où je me suis rendu compte que ben ça devient à ce moment-là une dépense alors que ça devrait être un investissement. Et je me suis rendu compte à quel point que je l'avais réalisé dans plein d'autres sphères, mais pas là-dessus, que notre véritable, si je peux dire, enjeu, c'est pas l'argent, c'est le temps. Tu sais, on veut toujours sauver de l'argent, mais c'est pas ça l'affaire. Parce que de l'argent, tu peux trouver plein de façons d'en générer plus. Je dis pas que ça se fait en claquant des doigts, mais du temps, c'est limité. L'argent, c'est illimité. Il y a moyen de mettre des choses en place pour en avoir plus. Puis il n'y a pas de fin. Le temps, il y a une fin. Fait que c'est là où je me suis dit, OK, là maintenant, comment est-ce que je peux déléguer des choses de façon à ce que ce soit un investissement et de façon à ce que moi, ça me rapporte ce que j'ai le plus besoin, qui est du temps. Et c'est là que ça a vraiment changé la donne pour moi et que ça fait, je vais dire un petit peu plus qu'un an, que je suis en mesure de déléguer, de donner des mandats à, tu sais, la meilleure personne parce que j'ai bien ciblé qu'est-ce qu'il y en est. Ça ne veut pas dire que je suis infaillible et qu'on n'a pas d'ajustement, là.
Non, c'est ça, c'est toujours à revoir.
Ouais, dans une totale avenue différente. Puis j'ai eu à faire la paix avec mon désir de, je vais dire, du one fits all, là, de trouver une personne qui peut tout faire.
Parce que c'est vrai que, tu sais, une personne qui peut tout faire, ça veut dire beaucoup parce que quand on est entrepreneur, on a une variété, tu sais, de tâches à déléguer, tu sais, sur différents domaines. Ça fait que c'est vrai que ça doit être assez difficile là, à trouver, là.
Bien, je trouve que ça nous amène souvent, je ne sais pas si dans tes auditeurs, il va y en avoir qui se retrouvent dans ce que je dis, mais je trouve que ça nous amène souvent dans notre zone de, ben tant qu'à tout y expliquer, je vais le faire. Tant qu'à tout mettre sur papier, je vais le faire. Tu sais, c'est facile. C'est drôle parce que au niveau de la gestion puis du leadership, une des personnes que j'adore, c'est Simon Sinek. Je ne sais pas si tu le connais. C'est celui qui a écrit Start with Why puis bon, le TEDx Talk et tout. Mais lui, il est beaucoup dans la grande entreprise. Mais le principe est le même. Il dit le problème du leadership dans les entreprises, c'est que on a promeut pas des gens qui ont du leadership. On promeut des gens qui sont bons à faire X tâches, puis là, on les met dans un poste où ils font plus cette tâche-là, puis qu'il faut qu'ils supervisent d'autres gens qui font ça. Fait que ce qu'ils font, c'est du micromanagement, de toujours leur dire comment faire ça, parce que c'est pas un leader, il sait pas comment te gérer autrement. Puis je me rends compte que c'est ça. Tu sais, quand t'es seul dans ton entreprise ou t'as une petite entreprise de quelques employés, t'es encore plusieurs porteurs de plusieurs chapeaux, puis le rôle de leader, tu sais peut-être pas comment le faire ou tu prends pas le temps de le faire parce que c'est un rôle de plus qu'on t'ajoute. Mais c'est ça qui fait toute la différence, tu sais. Puis c'est ce qui fait que si je retournais à mon agence de voyage, je gérerais pas l'équipe pantoute de la même façon, ils feraient pas les mêmes choses, je ferais pas les mêmes tâches, tu sais. Tout serait différent parce que je réalise que quand j'ai eu mon agence, tu sais, je suis quand même pas très vieille, là, j'ai 40 ans. J'ai eu mon agence fin vingtaine, début trentaine. Ben, dans le fond, c'est parce que j'étais une top conseillère en voyage. Mais j'étais pas une leader. Fait que c'est un peu toujours la même chose. Fait que c'est là, je pense, qu'en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur, on se fait prendre un peu au piège que soit on veut déléguer des choses qu'on est capable de faire, mais on n'a pas développé nos atouts de leadership. Tu sais, on ne s'est pas dit comment je vais gérer le mandat, comment je vais faire des suivis, comment on va bien communiquer, cette personne-là et moi. Je suis en train de dire quoi faire, comment le faire. Fait que cette personne-là, elle ne sent vraiment pas bien ni bien valorisée. Ou on veut déléguer des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas comment faire, puis là, on espère un sauveur qui va tout prendre en main sans qu'on aille à y expliquer, puis sans qu'on n'a rien géré, puis que tout soit parfait. Fait que dans les deux cas, ça ne marche pas vraiment. Je ne sais pas si c'est ça que tu as remarqué, toi aussi, auprès de la clientèle entrepreneuriale.
Ah oui, vraiment. Puis je voudrais juste faire du pouce sur ce que tu dis. T'sais, comment qu'on fait pour devenir un bon leader? Premièrement, c'est quoi les qualités d'un bon leader?
Bien, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que, dans le fond, là, si je peux dire, les deux fautes là, qu'on fait majoritairement, c'est de vouloir se débarrasser des tâches.
Déléguer, ce n'est pas se débarrasser. Ça, c'est déjà un bon point, là.
Ou de vouloir se déresponsabiliser. Parce que l'humain aime ça trouver des coupables. Fait que souvent, tu sais, pour reprendre ce que je te disais, si je délègue quelque chose que je sais comment faire, c'est parce que je veux m'en débarrasser. Fait que souvent, ça va me conditionner, ça va m'amener à vouloir quelqu'un de pas trop cher. Quelqu'un qui est, tu sais, en anglais, on dit « average », qui est bon, mais pas trop, pour que je puisse continuer à y dire quoi faire.
C'est-à-dire qu'il n'est pas meilleur que nous, dans le fond, qui sait faire la tâche, mais qu'au final, on sait qu'il est moins bon que nous.
Ben ou en tout cas, il coûte moins cher que nous, puis on peut encore y dire « non, 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 on fait ça de même, de même, de même ». Ça, c'est se débarrasser. Puis se déresponsabiliser, on le voit souvent par rapport à des experts. Ou tu sais, si je vais, quand je veux, mettons, déléguer quelque chose, mais que je ne faisais pas vraiment, je veux l'améliorer ou admettons que ça pourrait être un exemple concret. J'ai eu un compte sur LinkedIn, j'y vais une fois de temps en temps, puis là, je me dis, ah, j'aimerais ça être plus présente, je vais prendre quelqu'un qui peut gérer mon LinkedIn. Mais là, je vais vers quelqu'un de meilleur que moi, qui a quelque chose que je n'ai pas. Mais là, des fois, ça m'amène à me déresponsabiliser, à penser que là, lui, il va le prendre en charge, il va tout faire, puis ça va marcher, puis donner des résultats. Tu sais, s'il est bon, ça va marcher. Mais j'ai quand même des indications à y donner, j'ai quand même des suivis à faire. Je suis responsable de mon processus, tu sais. Puis ça, c'est pas évident d'une part comme l'autre, parce que, comme je disais, quand on arrive à déléguer, on veut que ça marche, là. On veut que ça aille mieux que si on était tout seul. Puis souvent, ben, on veut que ce soit vite. Fait que, tu sais, tu parlais des qualités du bon leader. Je pense qu'à la base, c'est d'être capable de prendre le temps. Ça veut pas dire d'étirer des choses indûment, là. Mais d'être capable de prendre le temps de autant cibler mes besoins que de prendre le temps de faire des points avec cette personne-là, de se donner, tu sais, de se donner une méthode. Est-ce qu'on s'écrit un courriel à chaque semaine? Est-ce qu'on se parle? Mais le temps que tu prends, c'est des minutes et des heures qui sont gagnées sur le long terme. Fait que ça, je pense que c'est vraiment le numéro un. Puis ça, c'est la même chose en entreprise, peu importe à quel point ils sont occupés, là. À quel point ils sont dans le jus, c'est la première chose que je vais te dire. Prenez-vous le temps. Parce que sinon, là, on passe à côté.
Parce que c'est sûr qu'à court terme, ça, je le dis souvent, tu sais, à court terme, déléguer, c'est sûr que ça ne te fait pas gagner du temps, effectivement. Ça te prend plus de temps, mais c'est sur le long terme qu'on en gagne, là.
Ouais, puis, tu sais, j'ai aucunement la prétention d'être la meilleure pour déléguer, loin de là. C'est un processus en cheminement par rapport à nous, mais je pense aussi, si je reviens en tant qu'entrepreneur ou solopreneur, selon nos étapes de croissance. Fait que des moments, tu sais, des mois où je suis en croissance, mais dans les mêmes zones que je suis plus habituée de gérer, ça va super bien. Mais quand on entre dans un nouveau service, un nouveau projet, des nouvelles tâches, là, je peux me ramasser très vite dans moi ce que j'appelle mon angle mort, là. Dans mon arrogance de vouloir que ça aille vite, de comment ça que t'es pas dans ma tête puis que tu comprends pas ce que je veux dire, puis « Oh my God, ça prend donc bien du temps! » Tu sais, c'est facile de retomber là-dedans parce que là, on est dans une période où notre ratio de temps tire beaucoup, vient comme nous irriter. Puis des fois aussi, la notion d'argent, c'est pas parce que tu génères des revenus que t'es au moment de déléguer que tout vaut la peine d'être délégué puis de payer n'importe quoi, n'importe où non plus, tu sais. Je suis pas la fan de prendre quelqu'un parce que c'est le plus bas taux horaire, mais la solution, l'espèce de proposition la plus complète n'est pas nécessairement peut-être ce que tu as besoin maintenant. Fait que c'est tout ça qui demande un certain temps pour vraiment cibler. Dans le fond, tu sais, le fondement de tout ça, c'est pourquoi je déléguerais ça? Puis dans le pourquoi, moi, je l'utilise toujours à deux escients. Le pourquoi étant la raison, pourquoi je délègue. Puis après ça, je sépare le mot. Pour quoi? Dans quel but je fais ça? Puis là, ça m'amène, au-delà des objectifs, le vrai but de la patente. Des fois, quand je dis « pourquoi », OK, pour être vue et présente sur une nouvelle plateforme. Pourquoi? Pour augmenter mes revenus. Tu comprends? Ça vient nommer les attentes. Puis quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais mieux nommer qu'est-ce que je veux. Puis elle va être capable de répondre à ça en disant « oui, c'est possible, mais ce ne sera pas moi ». Ou je pense que tu as des idées irréalistes présentement, ou il te manque des informations. Fait que je vais comme faire ma partie du travail pour être capable de voir après comment on peut concrétiser ça.
Ouais, puis ça t'aide à mieux choisir la personne aussi, comme tu disais. Est-ce que c'est la bonne personne pour m'aider? Ou, tu sais, puis trouver le bon service aussi. Est-ce que j'ai besoin, tu sais, de la grosse affaire ou juste d'un petit morceau?
Ouais, puis, tu sais, si je reviens, tantôt, tu parlais les qualités d'un bon leader, tu sais. Moi, j'en reviens toujours à la communication. Puis pas la communication dans l'aisance à parler. Parler, c'est pas communiquer. Communiquer, c'est une relation. Est-ce que je suis capable d'écouter? De vraiment entendre ce que l'autre personne me dit, puis peut-être ce qu'elle me dit pas, là, le « entre les lignes », tu sais. Ça, j'ai réalisé qu'à beaucoup de moments, tu sais, quand je te parlais des premières adjointes avec qui j'ai fait affaire, bien, si j'avais été réellement à l'écoute, j'aurais décelé des moments où ils n'étaient pas super à l'aise, mais ils avaient, tu sais, « je suis une bonne cliente, fait qu'ils ont le goût de me faire plaisir », je l'aurais décelé, tu sais. Mais j'étais trop centrée sur mon besoin. Fait que je parlais. Puis là, quand ils me disaient oui, ça faisait « yes, ils vont le faire! » Mais tu sais, c'était pas de la vraie communication pour faire comme « ben écoute, je te sens pas super à l'aise, t'es-tu à l'aise? T'aimerais-tu mieux qu'on fasse autrement? »
Ou t'aimerais-tu mieux, je me référais à une autre personne aussi, tu sais, parce que si c'est pas finalement... Oui, tu peux être capable de le faire, mais c'est pas parce que t'es capable de le faire que tu veux nécessairement le faire aussi. Là, la nuance est importante.
Vraiment. Puis maintenant, tu sais, peut-être ça va nous amener vers un autre aspect, mais je pense que c'est important de déterminer comment tu vois la délégation. Moi, ce qui est ressorti beaucoup, c'est que je vois présentement la délégation comme de la collaboration. Donc, pour moi, l'aspect de communiquer est super important. Donc, autant que moi, je dise « écoute, voici comment je le vois », mais c'est toi l'expert. Ça a-tu de l'allure ce que je te dis? Tu sais, je prends pas pour acquis que parce que la personne, c'est son champ d'expertise, elle va être à l'aise de m'en parler. Ou souvent, ce que je me suis fait dire, c'est « ben, t'avais l'air tellement convaincue, je pensais que c'était clair pour toi. » Fait que je l'ai faite comme ça. Alors que moi, je me disais « ben, si ça n'a pas d'allure, elle va me le dire, c'est elle l'experte. » Fait que c'est tous ces non-dits-là, tu comprends? Puis ça en revient à prendre le temps. Parce que oui, c'est plus long que d'envoyer un courriel avec 8 bullet points, tu sais, de dire « voici, je t'envoie ça, regarde ça, si tu as des questions, reviens-moi. » Après ça, on pourrait se faire un petit appel téléphonique, s'assurer qu'on s'entend bien, que tu as bien saisi mes attentes, puis après, tu sais, on start. Oui, ça prend du temps, mais c'est le même principe en entreprise. Tu sais, quand je travaille avec des gestionnaires qui sont comme « ouais, mais Mélissa, je pense que tu ne comprends pas à quel point qu'on est occupé. » Puis moi, je leur dis souvent « OK, mais est-ce que présentement, vous arrivez à bien gérer? » Non, c'est ça, on en a trop à faire. OK. Moi, ce que je te dis, c'est que c'est paradoxal, mais de prendre le temps va vous faire sauver du temps. Fait que c'est un peu le même principe. Fait que moi, d'identifier que je voyais beaucoup les choses comme étant des collaborations, ben ça m'a amené à aller vers des gens qui ont moins le profil, je vais dire 100% exécutant. Donc, des gens qui ont un désir, des fois, de brainstormer ou de proposer ou d'explorer une nouvelle plateforme. Versus avant, ce que je réalisais pas, c'est qu'inconsciemment, j'allais vers des exécutants, des gens qui sont très bons dans quelque chose, mais avec mon désir de collaboration, qui faisait que je lui demandais des petites bulles à gauche, à droite, qui les mettait inconfortables, tu comprends? Puis que moi, je me disais, ben là, pourquoi qu'elle m'a dit oui, si elle sait pas c'est quoi, ou si elle est pas à l'aise? Ou... Fait que c'était toujours comme un petit peu boiteux, si on peut dire, comme relation. Puis j'en parlais récemment avec Céline Leck que tu as reçue sur ton podcast, puis elle me faisait remarquer ça. Elle dit, t'as-tu remarqué, Mélissa, le nombre de fois que tu as dit « mes collaborateurs », elle dit dans notre conversation. Puis elle dit, c'est vraiment ça que je percevais de toi avant. Quand tu aurais dit « mon gars de X, mon adjointe, nanana », mais elle dit, pour toi, c'était comme pas ça. C'était pas comme ça que tu les concevais. Fait qu'on dirait que tu n'arrivais pas à trouver la bonne formule puis la bonne personne. Puis elle dit, je trouve que c'est vraiment ça. Elle dit, t'as le désir d'être d'égal à égal dans la relation avec chacun nos compétences puis nos expertises, tu sais. Ce qui est totalement différent de d'autres gens, de la façon qu'ils vont voir ça, comme je te disais, de dire, ben des gens sont plus, on le voit en entreprise, surtout en dessous de moi ou au-dessus de moi. Moi, c'est vraiment dans le égal à égal, tu sais. On fait-tu un bout de chemin ensemble? Voici ce que moi je vois, est-ce que toi ça te parle? Fait que je pense que ça, c'est vraiment ce qui va permettre à un travailleur autonome comme à un entrepreneur de bien choisir quoi déléguer et à qui le déléguer selon comment tu vois ça ultimement, tu sais. Qu'est-ce que tu aimerais que ce soit?
Je voudrais, parce qu'il y a quelque chose qui me chicote depuis tantôt, tu sais, parce que même si on est super ouvert puis qu'on choisit bien la personne à qui on va déléguer et tout ça, tu sais, ça peut toujours arriver quand même qu'on soit insatisfait. Puis à ce moment-là, tu sais, t'as-tu des conseils à donner sur comment le dire? Parce que moi, j'ai remarqué que souvent, les gens, quand ils sont insatisfaits, ils disent « OK, c'est correct », puis là, après ça, de leur côté, ils refont tout. Mais...
Mais ça, c'est tellement un comportement humain. Moi, ayant travaillé longtemps en service client, tu sais, en agence de voyage et tout ça, c'est un peu le même principe que quand quelqu'un dit « on va y penser, on va vous rappeler », puis finalement, il ne te rappelle jamais puis il achète ailleurs, là. T'es comme « ben pourquoi qu'il ne me l'a pas dit? » Il faut savoir que l'humain n'aime pas la confrontation. Il va tout faire pour éviter une confrontation possible. Fait que partant de là, le meilleur truc que je peux donner, c'est que si tu gardes la rétroaction, le feedback, juste pour quand ça ne marche pas, tu ne le feras pas. Alors moi, ce que je fais, c'est de toujours donner une rétroaction. Donc, souvent, elle est positive. Des fois, il y a une petite chose. Puis des fois, il y a quelque chose qui ne marche pas pantoute. Mais comme on a développé la relation dans le constructif, bien, quand je vais arriver avec « écoute, telle affaire, ça ne marche pas pantoute », bien, la personne ne se sentira pas attaquée, tu sais. Elle est habituée qu'après X affaires, tu sais, à chaque fois, Mélissa me donne du feedback, puis là, cette fois-ci, c'est ça. Mais encore là, ça nous ramène à la communication. Puis tu sais, dans le feu de l'action, ça m'est arrivé récemment, OK? Moi, j'ai quelqu'un qui m'aide avec toute la rédaction de show notes pour mes épisodes de podcast. Donc, parce que je voulais comme optimiser, m'assurer des fois que quand je parle de quelque chose dans l'épisode, tu sais, aller mettre le lien du livre que j'ai parlé, de tout ça, tu sais. J'ai quelqu'un qui m'aide avec ça, puis j'y donne toujours du feedback, tu sais. Ah, oh, j'ai aimé ça, de la façon que tu as interprété ça. Moi, j'aurais pas pensé à ça. Ça, c'est une belle phrase. J'ai aimé ta affaire. Des fois, je suis comme, je suis pas sûre. Tu sais, cette phrase-là m'accroche. Pourquoi tu as mis ça comme étant la première phrase? Puis là, on en parle. Puis, il est arrivé un moment où j'étais comme, OK, ça marche pas pantoute. Qu'est-ce qu'elle a compris? C'est pas ça l'épisode, tu sais, dans ma tête. Et dans le feu de l'action, j'ai commencé à y écrire un courriel, vraiment, là, dans le, OK, là, ça marche pas pantoute, je sais pas t'étais où, tu faisais-tu deux choses en même temps, tu m'as pas écouté, bla 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 bla. Rendu à la fin, j'ai fait touc, 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 j'ai tout reculé et effacé mon message, parce que ça, ce n'est pas du leadership.
T'avais pas pris le recul nécessaire, t'étais trop dans l'émotion, même un peu, tu sais, dans l'accusation de l'autre.
Je me déresponsabilisais. Qu'est-ce que toi, t'as pas compris? Fait que là, j'ai réécrit mon message en disant, écoute, puis là, en allant vraiment avec ma sincérité. Écoute, je me suis vraiment demandé si c'était la bonne description avec le bon épisode, tellement que pour moi, il n'y avait pas de sens. Peux-tu m'expliquer comment t'as perçu l'épisode? Parce que là, je me questionne si c'est moi qui comprend pas, ou si finalement, il y a plein de gens qui, comme toi, vont comprendre ça, puis c'est pas ça pantoute le message? Peux-tu m'expliquer ton processus? Alors ça amène à la grande qualité, je pense, du leadership, qui est l'humilité. C'est jamais de la faute des autres. On oublie ça, là. J'ai toujours une part de responsabilité. Puis ça se peut que dans un épisode de podcast, moi, j'ai voulu te parler gros comme le bras de tel sujet, mais ce qui ressort, c'est beaucoup plus une autre affaire. Je peux me borner à dire à tout le monde qui va me dire le contraire, « Non, non, non! L'épisode portait sur tel sujet! » Ou je peux me dire, « Ben si elle l'a compris comme ça, il y en a peut-être d'autres! »
Ben oui, elle sera pas la seule à l'avoir vue de cet angle-là aussi!
Donc, tu sais, dans le « Explique-moi! » Qu'est-ce qui t'a amené là? Je vais avoir beaucoup d'informations. Versus, un peu comme tu disais, tu sais, si j'avais comme fait « OK, merci », puis je l'avais tout réécrit. Ça, moi, je fais pas ça. Tu sais, j'ai pas ce comportement-là. Moi, l'anecdote, là, c'est que quand j'étais adolescente, j'allais défendre, et là, je fais des gros guillemets qu'on ne voit pas, toutes mes amies, quand ils allaient chez la coiffeuse, puis ils étaient pas contentes. Tu sais, parce qu'eux autres, ils allaient, ils se faisaient faire une permanente, ils étaient pas contents, ils payaient, ils disaient « Merci, c'est beau », puis ils pleuraient dehors. Puis moi, j'étais comme « Mais non! T'aimes pas ça? Demande-lui, peut-être qu'elle peut les raccourcir un peu, ou c'est frais fait, peut-être qu'elle peut les défroisser un peu, voyons, on va y en parler gentiment, nanana! » Moi, j'ai jamais eu ça, de dire « OK, merci! » de payer, puis de m'en aller. Fait que c'est pas un comportement que j'ai avec les gens que je délègue, mais j'ai tendance, tu sais, j'avais tendance avant, pour pouvoir aller plus vite, à prendre ça, le mettre là, dire « bon, ben celle-là, c'est plate, là, ça a été fait un peu tout croche selon moi, je vais l'utiliser pareil, puis à me mettre une note mentale, je suis mieux de le faire moi-même à l'avenir. »
Mais là, c'est là que ça devient dangereux, parce que là, c'est là qu'on arrête de déléguer, puis que là, on se met à avoir peur, puis qu'on fait plus confiance non plus. Aussi, parce qu'il y a ça aussi, la relation de confiance qui s'établit avec l'autre personne, tu sais, à entretenir, mais aussi, c'est que s'il y a une relation qui est brisée, ça donne déjà une couleur aux autres relations.
Ben vraiment.
Aux futures relations, ça les teinte.
Ben c'est en déjà. Plein ça, c'est le principe du rebound. Là, je vais me mettre à chercher quelqu'un qui est différent de l'autre, en pensant que ça va me préserver de la mésaventure avec l'autre. Mais il y a toujours une partie de chaque situation qui est de ma faute, là, qui m'appartient, que moi, j'ai à gérer. Puis dans cet exemple-là que je te racontais, ben, d'elle-même, cette fille-là, à un moment donné, un des épisodes, pour X raisons, j'étais un petit peu occupée et tout, deux jours plus tard, elle m'écrit « C'est vraiment bizarre, d'habitude, tu me donnes toujours ton opinion, puis là, je ne l'ai pas eu, j'ai-tu manqué le courriel? » Tu sais, j'aime ça lire comment t'as aimé. Fait que, tu sais, d'elle-même est venue dans le processus de communication aussi. Mais ça se ferait pas si les seules fois où j'ai dit quelque chose, c'est quand je suis pas contente. Elle serait juste à se croiser les doigts que je suis contente.
Ou elle voudrait plus faire affaire avec toi aussi à la longue.
Là, ben c'est ça. Et du fait qu'on est plus dans de la rétroaction, puis dans « Ah, oh, j'ai aimé ça, telle chose, j'aurais pas pensé à inclure telle affaire, bravo, blabla », ben c'est vraiment une relation qu'on développe, une collaboration. Fait que ça vient faciliter les moments où il y a quelque chose à dire. Il y en a qui vont dire, moi, c'est l'inverse. Quand je suis trop proche de quelqu'un émotivement, c'est là que je suis plus capable de... C'est souvent pour ça qu'il y en a qui vont rester très froids. Tu sais, avec leur employé ou avec les fournisseurs ou les sous-traitants avec qui ils font affaire, pour garder l'espèce de distance qui va leur permettre de... Mais je pense que de moins en moins, ça fonctionne. Je pense que dans l'ère où on est maintenant, les gens veulent travailler dans des relations où ils sont bien, puis où est-ce qu'ils sont justement en relation et non juste tributaires, exécutants, sous-traitants. Fait que je pense que c'est vraiment de développer notre leadership, c'est vraiment probablement notre grande priorité qu'on aurait tout le monde à faire. Puis je parle du leadership de soi parce que ça part de soi.
Mais comme là, on a évoqué beaucoup, tu sais, les relations à l'autre puis tout ça, puis je reviens à ce que j'ai dit au début du podcast parce qu'on entend souvent que pour faire confiance à l'autre, il faut d'abord avoir confiance en soi. Mais pour toi, là, c'est quoi ça veut dire, ça, en fait? Pourquoi, en quoi ça influence la confiance qu'on a à l'autre de pas avoir confiance en soi?
Parce que je pense, puis tu sais, je vais te répondre spontanément, mais j'y ai jamais pensé dans cet angle-là. Je trouve ça super intéressant. Je pense que si on n'a pas pleinement confiance en soi, on se met à aller chercher quelqu'un en voulant qu'il nous donne confiance. Un peu comme dans une relation de couple. Je vais vouloir que l'autre me comble. Tu sais, que l'autre vienne compléter parce que je ne me sens pas complet. Alors, c'est là aussi où je mets une responsabilité sur l'autre qui n'y appartient pas. Puis souvent, c'est hyper subtil, tu sais. Moi, le premier mandat vraiment récurrent que j'avais donné à une adjointe virtuelle, c'était de gérer mon compte Facebook professionnel. Avec le recul, je sais maintenant que Facebook, c'est pas ma plateforme numéro un d'attraction. C'est pas celle que je suis le plus confortable. Que c'est pas de juste mettre des beaux visuels avec des belles citations qui va faire une différence dans la vie des gens comme je veux le faire. Mais il y a 5-6 ans, tu sais, parce que tout le volet web, ça change vite, là. Mais si on se remet, il y a 5-6 ans, c'était très tendance, là. Moi, j'étais une, tu sais, des coachs qui s'est faite une page pro en premier, parce qu'au début, tu sais, tous les professionnels avaient comme un profil personnel, tu sais. Mais ce que j'ai réalisé au fil du temps, c'est que j'avais l'impression que parce que quelqu'un allait le faire avec constance, allait en mettre plus souvent, allait créer les visuels, ça allait me libérer du temps, puis ça allait automatiquement donner des résultats. Résultats, nouveaux clients, engagement sur les publications. Alors que ce que je voulais, dans le fond, moi, là, c'était interagir avec les gens. Tu sais, moi, ce que je voulais, c'est ce que je fais avec le podcast maintenant. C'est de jaser avec toi, de t'éclairer dans ton introspection. Fait que tu sais, quand il y avait un beau visuel avec une question puis une citation, moi je voulais que tu me dises « T'es-tu d'accord? T'es pas d'accord? T'es-tu capable de le faire? Tu veux-tu que je t'aide? » Mais j'avais pas besoin d'une adjointe, des visuels Facebook puis d'un mandat de plusieurs milliers de dollars pour 6 mois.
Pour créer cette connexion-là, ouais.
Fait que c'est de là que je dis quand qu'on cible, tu sais, tantôt je disais le fameux « pourquoi? » C'est comme le but derrière la stratégie, c'est quoi? Fait que maintenant, je me ramène beaucoup plus à ça. Puis dans le même exemple, récemment, je discutais avec quelqu'un pour développer tout le volet Pinterest. Puis je me suis dit, écoute, tu débordes déjà, là. C'est clair que tu ne te mets pas à gérer une nouvelle plateforme. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Ça fait 1 an et demi que je vais être sur Pinterest. Puis le peu de gens qui parlent de Pinterest, parce que c'est pas aussi populaire au Québec, ils veulent m'offrir un plan de match, mais que c'est moi qui l'exécute. Ça marche pas. Je n'ai pas de temps. C'est pas viable. Là, on m'a référé quelqu'un qui gère des comptes Pinterest. Mais quand j'ai fait la rencontre avec elle, du fait que j'y ai énoncé pourquoi je vais utiliser ça, que c'est clair. Moi, je disais, c'est vraiment, je veux qu'il y ait plus d'écoute sur mes épisodes podcast. Je veux partir du podcast pour créer des articles de blog maintenant et non l'inverse. Donc, j'y exprimais plein de choses. Puis elle était capable, elle m'est revenue avec un courriel en me disant, je vais te faire la proposition puis je vais te répondre point par point. En me disant, moi, voici ce que je peux prendre en charge. Voici ce que toi, tu vas avoir à me fournir pour que je puisse prendre ça en charge. Et voici ce qui ne m'appartient ni à moi ni à toi.
Ce qui n'est pas nécessaire?
Non, qu'elle disait, moi, je mets les best practices, on s'appuie sur toutes, mais ultimement, le nombre de clics, ceux qui vont te garantir du X milliers par mois, c'est de la merde, tu sais. Fait que...
On ne peut pas savoir d'avance exact. Les résultats que ça va donner.
Mais parce que ce qui ressortait beaucoup, c'était mon désir d'impact. Tu sais, que les épisodes soient écoutés plus. Fait que elle a pu me revenir, tu sais, en disant si on met ça, si on fait ça, si moi je fais ça, si toi tu fais ça, là, c'est comme tout devrait bien aller. Mais j'ai pas de baguette magique. Et si ton critère de mesure, c'est que ça, tu risques d'être déçu de ça. Et là, elle m'a proposé des alternatives, tu sais, en disant peut-être qu'on pourrait mettre des choses en place qui vont amener de l'attraction, qui vont inviter les gens à laisser leur courriel, qui va faire ci, qui va faire ça, qui va te laisser d'autres traces pour que tu puisses voir si ça vaut la peine que tu sois là. Mais je pense que c'est un bel exemple que j'aurais jamais pu avoir cette discussion-là et cette offre de service-là il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Parce que tant que moi, j'ai pas confiance que j'ai quelque chose à amener, je veux aller là, ça va fonctionner, et que j'ai pas cerné ce que je veux, bien, la personne ne peut pas répondre à ça.
Parce que la base, c'est ça, ça tout vient de toi, tout part de toi.
Oui. Mais j'oserais ajouter, puis là, je sais pas si je vais créer un précédent sur ton podcast, qu'il y a une partie... Il y a une partie qui est à faire au niveau, je vais mettre avec mes mains, là, de la grande sphère des adjointes virtuelles et des gens qui offrent des services, qu'eux aussi ont à développer leur confiance. C'est pas les clients qui peuvent venir te rassurer que t'es bon. Le client, il paye pas pour te donner de la reconnaissance puis te valider, tu sais. Toi aussi, t'as à déterminer c'est quoi tes balises. Tu sais, cette fille-là, j'ai trouvé ça courageux qu'elle m'écrive. Je ne te garantis pas de nombre de clics. Il y en a beaucoup qui l'auraient pas écrit, qui auraient fait comme ça fait partie de. Puis si je dis ça, tu sais, elle me prendra pas. Mais reste que c'est à toi de définir ton champ, tu sais, où tu es en pleine confiance, là, que ça, tu dis, moi, je suis vraiment bonne à faire ça, puis c'est ça que j'aime faire, puis voici comment je le fais. Il y a un grand principe, on appelle ça en self-leadership, qui dit, tu montres aux gens comment te traiter. C'est à toi de mettre tes balises, tu sais. Comme tous les gens qui m'ont dit oui, tu sais, pour des tâches qu'ils n'aimaient pas, j'ai une partie de responsabilité, mais ils en ont une aussi. Puis ça, je le vois beaucoup. Des fois, je me fais approcher, tu sais, par des adjointes qui me contactent, là, par LinkedIn ou par message ou blablabla. Puis, tu sais, quand je vais voir leur site web, puis qu'ils font tout, là, qu'il y a 22 bullet points, c'est impossible, là. T'es d'accord avec moi? Tu peux pas avoir, selon moi, le profil adjointe, on va dire, administrative et le profil qui est comme quasiment un online business manager et qui est une spécialiste des réseaux sociaux et qui fait de la rédaction de la mise en page et qui... Non, tu sais,
c'est... Ça l'équivaut à plusieurs personnes en une, là.
C'est ça. Mais avant, j'aurais cherché quelqu'un comme ça.
C'est ça? Ben, c'est aussi ça, tu sais, c'est... Ben, ces personnes-là veulent pas perdre de mandat, fait qu'ils se disent aussi bien tout offrir parce qu'il y a des gens qui vont le demander.
Puis je pense que c'est correct de se donner le droit d'explorer, ceci dit, là. Oui,
surtout au début, quand on commence.
Ouais, clairement, tu sais, c'est vraiment dans le relationnel, mais aussi dans l'échange. Comme moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, de me faire dire... Mais ça, c'est pas tant un service que je mets de l'avant, mais avec toi, peut-être que je pourrais l'essayer. Je vois comment tu le gères, puis c'est vrai qu'en gérant telle chose, je pourrais partir de là, puis tu sais, c'est correct ça aussi. Que oui, puis il y a des, si je peux dire, des tâches ou des trucs qui peuvent être pris en charge de par autre chose, de par une situation X, Y, Z, mais de d'emblée dire, ben tu sais, je vais développer ma confiance en prenant un peu n'importe qui puis faisant un peu n'importe quoi. Je pense que c'est pas une bonne stratégie non plus, tu sais.
Mais justement, as-tu des conseils à donner pour développer sa confiance en soi? Tu sais, par où on peut commencer?
Vraiment, là, puis ça sonne tellement cliché, là, mais c'est ça pareil. Puis moi, je dis souvent, tu sais, si ça pouvait se faire autrement, je le saurais. Parce que moi, aller plus vite puis faire différemment des autres, ça me parle. Fait que... Mais vraiment de revenir à quoi tu es vraiment bon. OK? Ça, c'est la première étape. Qu'est-ce que tu fais vraiment bien puis peut-être mieux que la majorité des gens?
Mais ça, c'est difficile des fois à cerner, Mélissa, parce que quand on est bon dans quelque chose, pour nous, c'est facile puis on se rend pas compte qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est difficile.
Et ça, nos meilleurs amis, mais aussi, si on est déjà en affaires, nos meilleurs clients, tu sais, ceux qu'on tripe, là, de leur demander, selon toi, c'est quoi les 3 choses à quoi je suis vraiment bonne? Ils vont nous le dire. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, peut-être plus importante même, c'est qu'est-ce qui me fait vraiment triper? Parce que je peux être bon dans quelque chose, tu l'as dit tantôt, mais ça ne veut pas dire que c'est ça que j'ai à faire. Moi, je me suis souvent fait dire que j'étais super bonne de me coiffer. Mais j'ai zéro désir d'être coiffeuse, là. Mais on me disait toujours, toi, t'es bonne, toi, tu te frises. Ah, oh, tu sais, j'ai coiffé des demoiselles d'honneur des fois, là. Ah, t'es super bonne, toi! Oui, OK, je peux te faire ça, c'est de même, là, c'est le coin d'une table, parce que c'est le fun, c'est cool, mais ça veut pas dire que j'ai le goût d'être coiffeuse, tu sais. Fait que ça, c'est un exemple large, mais comme présentement, moi, ce que j'ai vécu au début de ma pratique, ayant été 15 ans en agence de voyage, bien, dans les 2-3 premières années, j'ai eu beaucoup de demandes de... Les gens me disaient qu'ils voulaient un coach, mais dans le fond, ils voulaient un consultant. Ils voulaient quelqu'un qui allait aller s'asseoir dans leur agence de voyage, faire de la restructuration, prendre une partie de la gestion. Je pouvais le faire. J'avais l'expertise pour. Mais c'est pas pour ça que j'avais vendu mon agence. C'est plus ça qui me faisait triper. Fait que de partir de ce qu'on est bon, c'est essentiel. Parce que ce qu'on est bon, ça vient avec toute la notion de mission de vie, la notion de talent, la notion de ce qui va nous amener dans notre accomplissement. Qu'est-ce qui me fait triper? Ça va m'amener dans mon épanouissement. Puis c'est quand les deux se rencontrent qu'il y a vraiment le succès et le bonheur. Anthony Robbins dit souvent, l'accomplissement sans épanouissement, c'est un échec. C'est tous les gens hyper compétents et malheureux présentement, là, dont on entend parler, puis qui se ramassent en dépression ou en burn-out. Fait que c'est vraiment à quoi je suis bon, qu'est-ce qui me fait vraiment triper, puis après ça, qu'est-ce que je pense que j'ai de mieux à faire. Tu sais, juste moi que moi-même, là, je dirais pas ça à personne, mais qu'est-ce que je pense là que, sérieux, j'ai de mieux à faire. Ça, c'est l'espèce de petite étincelle, là, d'éclair de génie, de... Tu sais, qui a fait que moi, j'ai fait... Moi, je pense sérieux, là. Vraiment, là, si je m'ose, là, je le dis pas à personne, là. Mais je pense qu'Oprah se sentait comme ça dans vingtaine. Moi, je pense que communiquer, inspirer, animer, faire des entrevues, ça me fait vraiment triper. Ça, c'est une des parties, tu comprends? Mais que... Là, je vais peut-être te demander de couper au montage, tu sais. Tu comprends? C'est comme un peu épeurant, mais je suis comme, je suis bonne, puis ça me fait vraiment triper. Même chose au niveau du coaching, tu sais. Quand je me dis, hey, oui, moi, là, d'avoir quelqu'un qui s'ouvre totalement, qui est prête à ce qu'on aille voir tout ce qui se passe, qu'on mette tout au balotage pour faire émerger quelque chose, aïe, aïe, je me pince chaque jour. Puis je vois les gens cheminer. Des fois, je les vois réaliser le rêve plus vite que ce qui était prévu, tu sais. Puis je suis comme, hey, moi, là, j'étais témoin backstage VIP de tout ça. Imagine quand elle m'a parlé de tout ça. Imagine quand il m'a confié ça. Mais ça, là, je me pince, tu sais. Versus organiser des itinéraires de voyage. J'étais encore très bonne, mais ça me fait plus autant triper.
Manque la petite étincelle, là.
Ouais, mais quand j'arrive à « est-ce que je pense que c'est ça que j'ai de mieux à faire dans ma vie professionnelle? » Si je suis honnête et qu'il n'y a pas trop de monde qui écoute, je vais dire « non, je pense que je suis capable de faire mieux. Je pense que je suis capable d'apporter plus. » Fait que je pense que c'est ça. Puis tu sais, si je fais un parallèle, mettons, avec des adjointes, beaucoup d'adjointes virtuelles de ce que je vois, moi j'aurais le goût de dire « arrêtez de dire que vous faites du Facebook. » Vous pouvez pas être autant de monde qui voulait gérer des pages Facebook. Dans ma tête, ça se peut pas. Mais c'est comme, ben tout le monde a un compte Facebook, fait qu'il faut que je gère ça. Puis c'est la plateforme la plus facile parce qu'on l'utilise toute personnellement. J'ai encore des guillemets, des air quotes. Fait que, mais ça, c'est un gage. Je vais être bonne à le faire, mais sérieux, je suis sûre qu'il y en a pas autant d'adjointes que ça les fait triper et qui disent, moi, là, tout ce que je connais, ce que je sais, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire pour qu'un entrepreneur se dise « Oh my God, comment je peux vivre sans cette personne-là? » Sérieux, c'est pas Facebook. Puis je ne dénigre pas, je veux juste mettre en lumière avec un exemple très populaire. Fait que je pense que c'est un petit peu tout le conditionnement qu'on a d'aller automatiquement dans le savoir-faire. Tu parlais d'entrée de jeu du savoir-être. Je pense que c'est ça. Tu sais, quand on se dit « à quoi je suis vraiment bon », on revient dans « qui je suis avant ce que je fais ». Quand on dit « qu'est-ce qui me fait triper », c'est dans « qu'est-ce que je ressens ». Puis « qu'est-ce que j'ai de mieux à faire ». Mais c'est comme si on contacte à l'espèce de plus grande version de soi. Là. Tu sais, quand on dit « la meilleure version de soi », bien, c'est comme « qu'est-ce que j'ai de mieux à faire ». À quoi je suis à mon meilleur ? Que je serais pas gênée de dire « ouais ». Pose-moi une couple de questions là-dessus.
Mais des fois aussi, même si on l'a trouvé, ce qui correspond à tout ce que tu viens de dire, mais des fois, on peut avoir peur là, de le partager aux autres et de sûr. Ce que ça va donner.
Et moi, je vais te dire un très bon indice. Si t'as peur, c'est bon signe.
Ah!
Parce que ça veut dire que c'est pas dans ta trail habituelle. Donc, c'est déjà peut-être bon signe. Je dis ça dans le sens une personne là, qui ne serait pas 100% épanouie et accomplie. Un bon signe que tu t'en vas vers quelque chose de peut-être mieux, c'est d'avoir peur. De faire comme « Oh my God, qu'est-ce que les gens vont dire? » Ou, tu sais, moi, quand j'ai commencé à parler d'intuition, là, puis de plus de développement personnel pour les entrepreneurs, puis je me disais « OK, que vont-ils dire de la Mélissa cartésienne? » On m'aime pour ma stratégie, ma structure, blablabla. Bla. Est-ce que je vais avoir l'air de ci, de ça? Bien, la peur amène que, OK, je m'en vais ailleurs. Là. Je m'en vais faire les choses différemment. Donc, il y a déjà peut-être une piste là-dedans. Que je m'en vais pas dans la traque facile ou la traque que je suis habituée. Hein, un peu comme quand on dit, si tu veux un résultat différent, tu as à poser des actions différentes. Ça n'enlève pas la peur.
Ça part quand même toujours d'un inconfort
oui.
pour agir, tu sais.
Oui. Et moi, ce que je dirais, c'est vraiment, là, accueille la peur. À tort, on la pousse. On veut la chasser. Puis, oh non, non, je suis hot, puis je vais travailler mon mindset. Puis, la peur vient te donner de l'information, là. Fait que si tu acceptes de dire, OK, j'ai peur. J'ai vraiment la chienne. Mais j'ai peur de quoi? J'ai peur de qui? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça qui m'affecterait vraiment? Va voir c'est quoi. Puis là, ça va être, est-ce que je vais avoir l'air de X? Est-ce qu'on va penser que Y? Tu comprends? Puis là, OK, c'est-tu du syndrome d'imposteur? C'est-tu de la peur de déranger? C'est-tu de la peur de charger trop cher? C'est-tu, tu sais, quand tu te demandes de qui j'ai peur, tu sais, c'est-tu de ce que ma mère va dire? Ça a l'air niaiseux, mais des fois, c'est de notre entourage proche. qu'on a peur du regard et du jugement, bien là, si c'est le cas, tu sais, c'est « qu'est-ce que mon chum va dire? » Bien moi, ma question va souvent être « est-ce que ton chum est ton client idéal? » Tu sais, après ça, revenons à « qui tu veux servir? » Mais des fois, toute cette information-là, si tu acceptes que tu as peur, puis que tu dis « OK, mais de quoi, là? Comment? » Souvent, ça te donne de l'information. Et après ça, ce qui est vraiment plate, c'est de donner le temps au temps.
Mais tu le disais à un moment donné dans un de tes épisodes de podcast, justement, qu'est-ce que tu fais quand tu attends quelque chose
ouais,
comme ça?
Ouais.
Sais-tu de quel épisode
oui,
dont je parle?
Oui, c'est l'épisode sur la patience. Oui. Ou est-ce que Nicole Bordelot, dans un de ses livres, disait « La patience, c'est pas l'action d'attendre. C'est l'attitude que tu as pendant que tu fais l'action d'attendre. »
C'est exactement de ça dont je parlais. Ouais.
Donc, des fois, tu sais, c'est de se dire, OK, j'accueille que j'ai peur. OK, de quoi j'ai peur? Mais, hey, ça me tente vraiment. OK, restons là, tu sais. Scrape pas l'idée, enlève-la pas, mais peut-être que t'es pas prête là non plus. Puis une des choses que moi, je fais vraiment souvent, c'est de tester mon idée. C'est d'en parler à des gens à qui je fais confiance. Pas juste confiance, ils n'en parleront pas ou en qui. Je sais qu'ils sont bienveillants envers moi-même. Ils ne seront pas là juste pour me faire peur non plus. Tu sais, ou dire, aïe, c'est risqué, tu serais mieux de garder ta pratique comme elle est. Des gens qui vont être comme, des fois, ça arrive là, qu'on va me dire, ah, vraiment, je te vois faire ça. Mais tu n'as pas peur que X. Tu sais, on va être capable d'aller voir, OK, est-ce qu'ils trouvent que je serais bonne là-dedans? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi ça me fait triper? Tu sais, là, mon espèce de grande vision. Mais après ça, ils peuvent me donner de l'info. Puis souvent, d'aller un peu le tester comme ça, moi, je vois comment je me sens. Puis plus souvent qu'autrement, de voir la réception des gens, bien, ça vient apaiser quelque chose. C'est la même chose au niveau des tarifs. J'ai malheureusement encore trop de coachés qui ne chargent pas assez cher, ne se sont pas encore inscrits aux taxes, donc ont des changements d'honoraires à faire. Là. Puis là, c'est l'enfer, là, aviser des clients que tu augmentes tes honoraires. Puis je leur dis souvent, OK, mais mettons que tu penses faire ça à compter de X date, tes clients que tu te sens le mieux avec, commence à juste en parler. Vas-y au compte-gouttes, tu sais, un à un. Tu vas voir comment tu te sens là-dedans. Tu vas voir si ça soulève des questions. Quelles sont les questions? Puis comme ça, quand tu vas être prête à l'annoncer at large, un peu comme un nouveau service, comme une nouvelle niche, bien, tu vas peut-être déjà être capable de l'annoncer en répondant aux interrogations que ça peut soulever, tu sais, en allant un peu mettre de l'avant ta zone pour que tu te sentes bien dans cette transition-là, tu sais. Je pense que ça peut être intéressant.
Ouais, puis dans le fond, tout ça, parce que je veux faire un petit topo de tout ce qu'on a dit, tu sais, parce que le fait...
On s'est promené.
Oui, mais c'était tout des points super intéressants, parce que tout ça, toutes ces réflexions-là, en fait, ça nous amène à être un meilleur entrepreneur, à clarifier sa vision, à savoir là où on s'en va, puis justement, tu sais, à passer à un autre niveau, tu sais, à chaque étape, c'est un chemin qu'on traverse, puis on progresse, tu sais, au travers de tout ça. Fait que je suis vraiment contente de tous les points, là, que tu as amenés pour aider, justement, tu sais, à mieux se connaître, puis à travailler le savoir-être, parce que le savoir-être, tu sais, on a un peu, comme tu dis, on est plus tendance à être dans le savoir-faire. Fait qu'on n'a pas l'occasion, tu sais, d'en parler souvent, puis de développer ça, là.
Ouais, puis, tu sais, je ferais peut-être l'analogie, tu sais, tu n'as pas appelé ton podcast « Débarrasse-toi de ce qui ne te tente pas », tu sais. Tu l'as appelé « Libère-toi », puis je pense que c'est ça, tu sais. À travers le processus entrepreneurial, c'est de se libérer de ce qui ne convient plus, de ce qu'on veut faire autrement, que ce soit des tâches, que ce soit des croyances. Tu sais, voilà comme plus de liberté. Te libérer de ce qui te retient, puis c'est sûr que selon moi, ça passe par un processus introspectif. Mais tu sais, introspection, ça veut pas dire lourd. Ça veut pas dire thérapie, je m'en vais pleurer 10 ans dans le bureau d'un psy, là. Tu sais, l'introspection, c'est juste d'apprendre à se poser un petit peu plus de questions des fois. Puis moi, j'ai commencé ça il y a une 15aine d'années, dans mon auto le matin et le soir, en allant travailler. Tu sais, le matin, en me disant, OK, comment j'aimerais que ma journée soit? Qu'est-ce que j'ai à l'horaire? Y a-t-il quelque chose qui me stresse aujourd'hui? En revenant, en me disant, OK, mettons, ce serait quoi mon highlight de la journée? S'il y avait quelque chose que je pouvais faire autrement, ce serait quoi? Tu sais, j'ai commencé très smooth comme ça, là. C'était pas du coaching, mais de revenir vers soi, de revenir en soi. Au lieu de rester juste dans l'étourdissement puis toujours à l'extérieur de soi, comme je te disais, pour après ça penser que les gens peuvent lire dans tes pensées, peuvent gérer tes émotions, puis que tu vas trouver les meilleurs employés puis les meilleurs collaborateurs en claquant des doigts, ben ça marche pas de même, tu sais. Depuis très longtemps, un des grands principes qu'on dit à la base de toute la réussite, c'est « connais-toi toi-même ». Ça part de là, puis après ça, ça va être une évolution, puis c'est que ça, la vie. C'est toujours en transformation, puis le processus, on a le refaire à plein d'étapes parce que les gens se réorientent, les gens partent à la retraite, les gens changent de domaine, fait que c'est important d'être capable de se remettre dans cette situation-là, tu sais, ce sera pas régler une fois pour toutes, cocher sur une to-do list, là.
Mais non. Puis là, j'aimerais te poser la question que je pose à la fin de chacun de mes podcasts. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui veut déléguer, mais qui hésite encore à le faire?
Oh boy! Qu'est-ce qui te fait hésiter? De quoi t'as peur? Parce que c'est soit lié à une mauvaise expérience X, Y, Z, donc c'est important d'aller peut-être juste occulter ça un petit peu, là. Régler ça envers toi-même, comme ça va peut-être t'amener dans, ben tu sais, moi je dis souvent, un peu à la blague, là, mais tu sais, si tu as 500 $ puis que c'est ça qui va te décider si ton entreprise passe ou casse, donne-moi le pas, là. Fait que, autant à un coach qu'à un adjoint, qu'à quelqu'un. Fait que, tu sais, si ta peur, c'est « j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai besoin de clients pour hier », OK, mais c'est pas déléguer ta solution, là. Fait que, tu sais, si t'hésites, qu'est-ce qui te fait hésiter? C'est super important. Ça va t'amener soit peut-être à choisir la meilleure chose à déléguer ou en tout cas la meilleure personne à qui déléguer puis le meilleur moment. Fait que ça, c'est ma déformation de coach. Tu sais, je répondrai par une question.
C'est correct, j'accepte. J'accepte ta réponse.
Mais je pourrais en donner une autre qui serait si t'hésites, fais-le pas. C'est parce que t'es pas prêt, tu sais.
Oui, mais des fois, on hésite pendant longtemps, puis on aimerait ça, mais on n'arrive pas à faire le pas.
Bien, c'est pour ça que je garde ma première réponse qui est « Mais qu'est-ce qui te fait hésiter?
» Parfait, fait qu'on peut choisir un peu, dépendamment de là où on est rendu, choix 1 ou choix 2.
Oui, oui, mais vraiment, il y a une information dans le fait que t'hésites, t'sais. Partons de là.
Oh oui, c'est certain qu'il y a une raison puis qu'il y a des choses à explorer là-dedans. Mais Mélissa, avant qu'on se quitte, j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu où est-ce qu'on peut te suivre puis que tu glisses aussi un mot sur le podcast M'entreprendre.
Oui, bien, le podcast M'entreprendre, on est à la fin de la saison 2 au moment où nous, on se parle. Donc, quand ça va sortir, on va être rendu autour de 30-35 épisodes qui sont en ligne. Donc, c'est sur toutes les plateformes principales, Spotify, Apple Podcasts et tout ça. Et le principe à la base de m'entreprendre, c'est de revenir en soi. C'est vraiment de dire, c'est à partir de moi, je suis la clé de mon succès. Je m'entreprends en premier pour mieux entreprendre. Donc, on travaille beaucoup coaching, leadership, stratégie, mindset et tout ça. Et la plupart des épisodes solo sont assez courts, 15 à 20 minutes. Et il y a des entrevues aussi. Et sur les réseaux sociaux, ben, je suis plus active sur LinkedIn ou sur Instagram. Donc, Instagram, ça va être un petit peu plus mes réflexions, vraiment des billets d'humeur qui vont être sous mes photos. Et sur LinkedIn, c'est beaucoup du relationnel, où est-ce que je pose des questions, où est-ce que j'interagis, je commente. Donc, c'est les deux endroits pour venir me trouver. Dans les deux cas, c'est le commercial Mélissa Miron Coach pour trouver mes profils.
De toute façon, je mets aussi les liens là, de tout ça dans les notes de l'épisode.
Yes!
Fait que je te remercie beaucoup de ton passage sur le podcast Libère-toi. C'était vraiment super inspirant, puis je suis convaincue que ça l'a donné des pistes de réflexion là, à plusieurs entrepreneurs pour justement, tu sais, mieux se connaître puis développer là, leur savoir-être.
Ouais, vraiment. Puis je te remercie de l'invitation puis du sujet. Donc, ça m'a permis évidemment d'être très, très, très allumée par l'entrevue. Alors, je te remercie, mais on va sûrement se recroiser bientôt, possiblement, sur le podcast M'entreprendre. Donc, à suivre.
Oui, à suivre. Bien, merci à toi.
Merci, Josiane. Bye!
Bye-bye! J'espère que vous avez aimé l'entrevue. En tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est important de prendre le temps de travailler sur soi. Souvent, on a de belles idées, de grandes ambitions. Mais on ne peut pas aller plus loin que nos propres limites. Alors, pour avancer, pour réaliser nos projets, il faut être bien aligné avec qui l'on est et identifier ce qu'on a le plus besoin pour réussir. Dans le prochain épisode, j'aimerais parler des mauvaises expériences qu'on peut vivre quand on délègue. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de déléguer une tâche à un collaborateur externe et puis que ça l'a mal tourné? Si oui, qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu réagi? As-tu pu rectifier la situation? En tant qu'entrepreneur, c'est pas toujours évident de laisser aller un morceau de notre entreprise, surtout la première fois. C'est pas une étape qui est facile à franchir. D'ici là, je t'invite à t'abonner au podcast pour être sûr de pas manquer les prochains épisodes. Entre-temps, si tu as déjà vécu une situation comme celle-là, je t'invite à m'écrire un message privé sur LinkedIn. Tu peux me rejoindre sur mon profil, Josiane Morinville. J'ai aussi mis le lien dans les notes de l'épisode. Ça serait super apprécié que tu nous partages ton expérience parce que ça pourrait aider d'autres entrepreneurs à mieux déléguer. Puis je suis convaincue qu'il y a d'autres personnes en ce moment qui vivent le même genre de situation qui t'est déjà arrivée et puis ton expérience pourrait leur apporter de nouvelles solutions. Alors, si tu as déjà vécu ça, ben, je te remercie à l'avance pour ton ouverture. Sur ce, on se reparle à l'épisode 14. À bientôt!